Eh bien, bonjour à tous pour cette quatrième table ronde, si vous n'êtes pas trop épuisés. Alors, comme tous les autres, on n'a pas tout à fait respecté les consignes, parce que je pense que c'est un peu le problème de l'articulation entre deux entités différentes. Le ministère de la Justice avait plus envie de s'intéresser à la recherche et le HESS plus envie de s'intéresser à la prison. Donc finalement, on a essayé d'articuler tout ça et au fond, c'est de ces conflits de logique que peuvent naître une intelligence plus grande des choses. Alors le titre de notre table ronde s'appelait « La prison après la loi pénitentiaire ». Tendre vers le droit commun. Je crois que personne ne va traiter exactement ça, mais on va en traiter en partie, parce que c'était peut-être un peu présomptueux de penser pouvoir traiter ce sujet en une heure. Et au fond, l'objet de cette réunion, de cette journée, c'est de réfléchir à la manière dont on pourrait non seulement améliorer les relations entre les chercheurs et la prison, parce que finalement, en entendant les tables rondes précédentes, on se rend compte qu'il y a une évolution considérable quand j'entends tous les directeurs d'administration centrale dire qu'ils voient très régulièrement des chercheurs, qu'ils les font venir dans leur administration, etc. Je dis que ça, c'est quand même très nouveau par rapport à ce qu'on a connu pas si longtemps que ça. Non pas que ça ne se faisait pas, mais en tous les cas, ça n'était pas institutionnalisé comme ça l'est. Non, c'est plutôt comment on fait, et ça c'est le stade suivant, en sorte que ces rencontres, que ces lectures produisent quelque chose, éclairent le débat suffisamment pour que les pratiques changent, les pratiques des professionnels, mais aussi l'élaboration des politiques publiques. Donc, je partirai des constats qu'on a fait récemment autour de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, qui est un petit et grand sujet. C'est un petit sujet par rapport à l'ensemble des politiques pénales. C'est un sujet qui dépasse un peu la prison, mais qui ne rend pas compte de l'ensemble de la prison, mais qui nous a permis, à travers la synthèse bibliographique qu'on a pu faire, de nuancer le constat qui pouvait être fait qu'on ne savait rien, c'est-à-dire on sait quand même beaucoup de choses, mais c'est une connaissance qui est assez dispersée et qui est assez mal mise à disposition des acteurs. Et puis c'est une connaissance où il y a des manques très importants, en tous les cas dans la recherche française, où il y a des manques très importants. Donc, si je reprends quelques conclusions du jury de la conférence de consensus, le constat qui était fait, c'est des connaissances dispersées, donc des données statistiques nombreuses, mais pas toujours très articulées entre elles, en tous les cas très articulées entre elles de manière compréhensible pour les acteurs. On comprend assez bien, pour peu qu'on se penche sur la question, pourquoi les statistiques qui viennent de l'administration pénitentiaire, celles qui viennent de la direction des affaires criminelles, celles qui viennent du ministère de l'Intérieur sont différentes. On le comprend parce que c'est des sources différentes. Et en même temps, lorsque administration publique ou ministère, on doit communiquer sur ces chiffres au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire comprendre à un ensemble de personnes et d'acteurs qu'est-ce que c'est que la récidive, au fond, qui c'est, qui ça concerne, qu'est-ce que ça a comme effet, eh bien, on est tout de même extrêmement embarrassé. On n'a pratiquement pas d'études ou très peu d'études sur les profils des détenus. On a une faible connaissance du profil des détenus lorsqu'ils sont à l'intérieur de la prison et on ne sait pratiquement rien du profil des personnes qui sont condamnées à des peines de milieu ouvert. On a pas d'études longitudinales. C'est vrai que les études longitudinales, c'est compliqué, mais on parlait dans la table ronde précédente de la question des parcours. Et finalement, sur les parcours, et ça a été une de nos difficultés pour travailler sur la récidive, c'est sur les parcours, on a finalement très peu de choses. On a relativement peu de choses sur les métiers Et pourtant, et on parlait du métier de juge des enfants, on a parlé du métier de juge aux affaires familiales. Sur le métier de juge à l'application des peines, par exemple, qu'est-ce qu'a eu comme effet le fait que le métier de juge à l'application des peines a complètement changé à la suite de la judiciarisation de l'application des peines? Finalement, on a très peu de connaissances, à part nos connaissances personnelles, sur ces questions. Alors que je me souviens juste de, par exemple, sur les métiers de surveillants, à la fin des années 80, une étude d'Antoinette Chauvenet sur le métier de surveillant, nous répétions, parce que j'étais à l'administration pénitentiaire à l'époque, certains qui sont dans la salle, et nous répétions à l'envi dans toutes les réunions publiques que l'émission de l'administration pénitentiaire, c'était la garde d'un côté et l'insertion de l'autre. Et que dit cette étude? Elle dit, eh bien, en fait, c'est pas du tout vrai. C'est 95% de garde et 5% d'insertion. Alors, c'était très bien, sauf que on n'était pas encore à une époque où on tirait des conséquences, si cette époque est arrivée, on le verra après, mais on n'était pas encore à une époque où on tirait des conséquences de ce type de connaissances, et au fond, cette question 95% de garde, 5% de réinsertion, c'est sans doute une des causes, sans doute pas la seule, mais une des causes qui a entraîné les mouvements sociaux dans les établissements pénitentiaires dans les années 89. Et peut-être que si on avait tiré les conséquences, peut-être un peu plus qu'on l'a fait, eh bien, on aurait peut-être évité, peut-être pas, mais on aurait peut-être évité. C'est juste un exemple. Donc voilà, des carences très importantes, ce qui me conduit à dire pourquoi ces carences, est-ce que c'est une insuffisance du milieu de recherche. Marwan Mohamed disait tout à l'heure qu'il avait très peu d'étudiants sur ces questions. Est-ce que c'est des domaines qui n'intéressent pas les étudiants? Est-ce que c'est que l'organisation de la recherche ne permet pas véritablement de faire en sorte que ces questions soient abordées? En tous les cas, cette question, je vais vous la poser à tous les deux avec quelques autres questions qui concernent les relations entre recherche et ministère de la Justice. Donc, les carences les plus graves, comment, une fois qu'on les a constatées, on les comble, c'est-à-dire comment, et ça pourra s'adresser aussi au GIP Droit et Justice, mais pas seulement, aux différents services statistiques du ministère, qui expriment les besoins de connaissances, à quel moment on les exprime, et comment interviennent dans l'expression de ces besoins de recherche, aussi bien les professionnels, le monde politique, le monde de la recherche lui-même, qui a ses propres initiatives en matière de recherche, et comment on peut élaborer une politique publique sans disposer d'un état solide des recherches. La deuxième question, c'est comment traduire en question de recherche les besoins de connaissances de l'administration? Parce que l'administration dit « j'ai besoin de savoir ça » et les chercheurs vous disent tout de suite « mais ça, c'est pas une question de recherche, ça peut pas se dire comme ça ». Et puis d'abord, il y a machin, machin et machin qui ont déjà travaillé là-dessus depuis longtemps et vous ne le savez pas et vous êtes vraiment nuls. Et donc, la question du passage entre les besoins de l'administration et la manière dont la recherche peut y répondre, ça nécessite ce que j'appelle des passeurs, mais qui est un métier qui n'existe pas vraiment, qui doit permettre de faire en sorte qu'il soit répondu à ces besoins de connaissances. La troisième question, c'est l'ouverture des terrains de recherche. Alors, vous nous direz si le fait de travailler en prison ou de travailler avec des personnes sous main de justice, ça pose des problèmes particuliers d'ouverture de terrain et comment on peut y répondre. Pour le coup, c'est peut-être la question la plus simple. Ensuite, il y a une quatrième question qui est la question de la gestion du temps. Parler du temps, je le dirais un peu différemment, c'est-à-dire, on sait que le temps de la recherche, ce n'est pas celui de la décision politique. C'est-à-dire que, on en a parlé, une recherche, c'est 3 ans d'enquête, 5 ans d'enquête, etc. Et une administration, elle veut quelque chose très vite. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi d'autres types de relations entre l'administration et les chercheurs qu'un lancement d'appel d'offres ou qu'un lancement de le financement d'une recherche, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans notre secteur un type de procédure type expertise collective comme le fait l'INSERM, c'est-à-dire à un certain moment, on ne fait pas une nouvelle recherche, mais on dit justement, on va faire le point de toutes les connaissances existantes, que ce soit des connaissances statistiques, démographiques et autres, et les connaissances dans le domaine juridique, dans le domaine sociologique, etc. Voilà. Et on va faire un état des lieux de ce qu'on sait à un moment donné sur une question. Et ça, ça peut aller vite. Ça peut répondre aux besoins de l'administration sans entraver le travail de recherche plus long. Et puis, la dernière question, et elle s'adressera à Isabelle Gors, c'est comment l'administration se saisit des questions de recherche et pourquoi elle a besoin de la recherche. Est-ce que c'est pour prendre des meilleures décisions publiques? Est-ce que c'est pour contribuer au changement des comportements des acteurs? Ça, Didier Fassin, vous nous parlerez de ces questions-là. Et puis la troisième question, c'est comment l'administration supporte ou a envie ou souhaite un regard critique, c'est-à-dire, si je reprends l'exemple de la recherche d'Antoinette Chauvenet, c'est de dire, au fond, le sociologue, en face, il dit, vous nous dites ça, vous nous dites que vous faites ça, vous dites partout que vous faites ça, et puis c'est pas du tout ce que vous faites. Eh bien, c'est pas forcément facile d'entendre ça pour une administration, comment faire, et en même temps c'est très utile, et en même temps c'est pas toujours drôle de l'entendre. Voilà. Et voilà. C'est... Alors, donc, je vais commencer. Je vais présenter rapidement les trois intervenants. Donc, Didier Fassin est à la fois, qui me corrigera si Google s'est trompé, Didier Fassin, qui est médecin, sociologue, anthropologue, qui est directeur de l'IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
Première erreur, fut.
Fut, ben voilà, vous voyez, c'est pas à jour. Non, qui fut jusque très récemment quand même, hein, et qui enseigne à l'université de Princeton et qui a travaillé sur de nombreux sujets, plus particulièrement sur des questions de santé publique et notamment sur les inégalités de santé en France et ailleurs, et sur de nombreux autres sujets, et qui, ces dernières années, a travaillé à la fois sur les forces de l'ordre, et son dernier ouvrage, que je vous recommande, qui s'appelle « Juger, réprimer, accompagner », et c'est sur la morale de l'État, où justement, il montre que l'État n'est pas une entité abstraite, bureaucratique abstraite et neutre, mais qu'elle s'incarne dans les pratiques de ses agents. Quand on dit les pratiques de ses agents, c'est avec leurs convictions, leurs émotions, et c'est ce qu'il appelle la morale de l'État. Mais je résume très très vite, il le dira beaucoup mieux que moi, et c'est un ouvrage très collectif et qui s'est intéressé à la police, à la justice, à la prison, aux services sociaux et à la santé mentale. Philippe Artière est historien, il est toujours directeur de recherche au CNRS, à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, à l'EHASS. Alors il s'est beaucoup intéressé aux histoires criminelles et aux biographies criminelles, et il a publié récemment, il a réédité récemment les 5 brochures du groupe d'information sur les prisons, qui est de 1971, donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas nés lorsque ces brochures sont parues. Je vous rappelle que le groupe d'information des prisons a été créé par Michel Foucault, Daniel Defer, Gilles Deleuze, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Marie Domenac. Et lesquels commençaient par « sont intolérables les tribunaux, les flics, les hôpitaux, les asiles, les écoles, le service militaire, la presse, la télé, l'État et d'abord les prisons ». Voilà, avec une littérature assez radicale, hein, qui est néanmoins, dont il tire dans la postface, qui est très intéressante, le fait que c'était une tentative très originale et très innovante, au fond, de transmettre la parole et l'expérience de gens qu'on n'entendait pas à l'époque, et de faire entendre, comme disait Michel Foucault, les marmonnements du monde. Et Isabelle Borse, que je ne présente pas ici, qui est directrice de l'administration pénitentiaire, magistrat, ancienne présidente du tribunal de grande instance de Troyes. Alors, je vais commencer par donner la parole à Philippe Artière, à l'historien, ce qui est assez logique.
Merci beaucoup. Merci de cette invitation à participer à cette journée qui est pour moi inédite, bien que... ayant plusieurs fois soit répondu à des appels d'offres de la mission Droit et Justice, et je dirais, ayant commencé ma première recherche autour d'une question qui ne porte pas sur l'ensemble de ce que vous avez énuméré, mais un objet très à part, qui était la question de la lecture et du livre en détention. Et à l'époque, il y avait un bureau avec deux personnes, l'un pour tout ce qui était les activités artistiques, c'est à l'époque où François Bon était salarié de la pénitentiaire, et puis de l'autre, un monsieur qui s'appelait Bruguière, me semble-t-il, et qui est reparti maintenant vers l'Ouest, les prisons de l'Ouest, et qui m'avait commandé une étude. Alors, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que je ne sais pas si la prison est l'école du crime, mais qu'en tout cas, la prison est en partie un lieu, je dirais, pour beaucoup d'entre nous en sciences sociales, qui est l'école de la recherche. Et l'école que vous voyez derrière... La prison que vous voyez derrière vous, c'est la prison du Cherche-Midi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants cet après-midi, mais c'est quand même sur les ruines de la prison du Cherche-Midi que la Maison des sciences de l'homme a été créée et que le monument, j'ai encore vérifié avant-hier, est bien protégé du désamiantage, puisque le monument ne porte pas d'amiante. Alors pourquoi cette image pourquoi cette image? Parce que précisément, et l'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de l'origine, de l'histoire, c'est toujours, on pense toujours au début, c'est-à-dire, on sait désormais que l'histoire des prisons, je dis désormais, grâce à Michel Perrault, qui est quand même... celle qui, en France, a porté cette recherche à un moment où, quand même, il n'y avait pas grand monde pour financer tout ça, une histoire des prisons est née. Elle est née et on a travaillé beaucoup sur donc la mise en place de la prison donc au début du 19e siècle, qui fait que aujourd'hui un certain nombre d'établissements fêtent leur bicentenaire. Je pense en particulier, j'y reviendrai, à Fontevraud, à la prison de Fontevraud, qui est fermée, mais qui se pose la question de savoir comment on fête la naissance de la prison. Alors, je disais, pourquoi cette faute? Parce que c'est la question de la destruction et de l'effacement et de l'oubli que je voudrais, dans les 10 minutes que j'ai, vous voyez, large programme, abordé, et non pas abordé par le biais de ce que, par l'angle que, enfin, disons, la manière dont vous avez présenté mon travail, parce qu'au fond, je ne suis pas un historien du crime, mais l'aborder dans le droit commun de la recherche, puisque cette maison a la particularité d'être une maison transversale. Et que, au fond, nous enseignons les sciences sociales, nous travaillons en sciences sociales et pas forcément, même si les disciplines se battent visiblement beaucoup pendant les élections, mais elles, c'est quand même un lieu où les étudiants peuvent suivre tout un ensemble de choses. Et cet objet prison, il ne relève pas que d'une sociologie des prisons, que d'une histoire du pénitentiaire. On sait, et je passe peut-être à la deuxième image, qui est celle de la petite roquette, que les rapports entre, l'institution pénitentiaire et les chercheurs ont été très violents. En 1974, au moment où on ferme la roquette et où on la détruit, des chercheurs, dont certains, j'ai aperçu Antoine Lazarus tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il est encore là, mais enfin, Michel Perrault, Michel Foucault et un certain nombre vont aller manifester, je ne sais pas si Antoine Lazarus y était, mais vont manifester devant la roquette contre la destruction de cette prison. Non pas qu'ils veuillent que cette prison qu'elle ne ferme pas, mais elle se pose dès ce moment-là, dès 1974, la question de quelle place la prison a dans notre société. Et je crois que vous parliez de passeurs, et l'une des questions pour moi, et Georges Garriou en a dit un mot, la question est bien aussi de cette articulation entre une recherche et une action. Et l'un des phénomènes qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est que la plupart des prisons de centre-ville en ce moment sont progressivement abandonnées et qu'on a donc ces espèces de cadavres au milieu de nos villes. Alors certains des cadavres sont rendus aux municipalités, d'autres restent, je crois, si j'ai bien compris, mais ça c'est pas encore très clair pour moi, la propriété du ministère de la Justice. Et ça, peut-être vous le préciserez. Et la question que... Alors, on pourrait citer la prison Saint-Paul à Lyon, prison que tout le monde a vue de Perrache, ou encore la prison Charles III de Nancy, elle-même aussi près de la gare, qui est maintenant un tas de cailloux. Alors, mon propos, c'est au fond de se poser la question de savoir si ce tas de cailloux n'est pas l'affaire de tous les chercheurs. Et c'est autour d'une question qui de plus en plus traverse l'ensemble de nos champs, qui est celle du patrimoine, que je voudrais ouvrir mon propos. En qualifiant ces bâtiments de patrimoine sombre. Patrimoine sombre en l'opposant à patrimoine doré, cher à Malraux, hein, les églises et les châteaux, qu'on connaît bien, ou au patrimoine noir, patrimoine génocidaire, sombre aussi par la charge d'angoisse, de peur. Certains chercheurs parlent d'une culture de l'effroi avec l'architecture de la prison. Donc un patrimoine sombre qui, pour autant, et là encore, à ce stade des réflexions où on en est, n'est pas à l'inventaire des monuments historiques pour une grande partie, alors même qu'un certain nombre de bâtiments ont été construits par Baltar, même du point de vue d'une histoire de l'architecture, on est face à des monuments vraiment importants. La question se pose néanmoins de savoir si ces cadavres, il faut les momifier et les laisser dans les centres-villes. Et je crois que, sous cet angle, la recherche peut peut-être y réfléchir. Et un lieu comme, puisqu'on est à l'école des études et puisque vous avez choisi de faire cette journée ici, me semble assez, pourrait être le lieu d'un chantier collectif. Alors je vais essayer de donner quelques pistes de ce que pourrait être cette réflexion, non pas tant sur la question, parce que derrière la question du patrimoine, il y a évidemment la question de la mémoire. Et de ce qui émerge de plus en plus, j'en donnerai un exemple pour finir, d'un droit à la mémoire, qui n'est pas un droit à la mémoire qui serait seulement celui du résistant, du militant pro-FLN pendant la guerre d'Algérie, mais celui d'une mémoire du droit commun. Question qui semble remonter, et elle remonte d'ailleurs, c'est très intéressant, par la PJJ. Elle remonte par des lieux qui sont des lieux comme, Maitrey, je pense aux travaux de notre collègue d'Angers, Niger, des gens qui commencent à travailler autour de ces témoignages de gens qui ont envie de parler de cette expérience-là. Première question, et puis j'en profite puisque Béatrice Frankel est là, ce serait au fond la question d'une archéologie préventive. Une archéologie préventive, comme on le fait traditionnellement lorsqu'on on fait un parking et qu'on tombe sur une nécropole. À savoir, un relevé systématique des traces, donc au fond une épigraphie contemporaine, mais aussi des choses qui sont faites, mais pas forcément de manière systématique. Ça veut dire qu'on renoue avec aussi des chantiers qui sont des chantiers à l'ancienne, où on ratisse le territoire, des campagnes photographiques à la manuelle, pour citer ce photographe de l'entre-deux-guerres qui a ensuite très mal tourné, ou des collectes, comme à Fontevraud, qui sont des collectes de témoignages, mais qui ne sont pas des collectes seulement de témoignages des surveillants, ou même d'anciens détenus, mais qui sont aussi des collectes parfois de voisins, de commerçants, donc de cette... Si certains d'entre vous connaissent l'histoire de la santé, du quartier de la santé, vous savez qu'il y avait un certain nombre d'établissements très importants dans le fonctionnement de la santé, d'établissements de débit de boissons, dans la rue de la Santé, où se rencontraient les visiteurs, les familles et les gardiens, où il y avait tout des négociations, où se passaient un certain nombre de choses. Par exemple, ceci. Ensuite, deuxième question, qui est celle de l'avenir des bâtiments. Alors, sur la collecte photographique, il faut quand même souligner, parce que ces photos, c'est Catherine Tambrin qui a eu la gentillesse de me les donner. Catherine Tambrin a été à l'initiative de cette exposition qui s'appelait « L'impossible photographie au musée Carnavalet », qui me semble être justement quelque chose d'intéressant, puisque c'est une institution comme le musée Carnavalet, donc Ville de Paris, qui s'intéresse à ces prisons, et ce n'est pas le ministère de la Justice qui fait une exposition de photographie. Et ça, c'est aussi une historienne de la photographie qui s'intéresse à cet objet. Le deuxième point, c'est l'avenir de ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait ? On les détruit comme à Nancy, on en fait des friches artistiques comme semble vouloir le faire la maire d'Avignon, on en fait des universités ou des centres de formation comme ça a été le cas un temps, et je crois que c'est désormais abandonné, le bagne à Saint-Laurent du Maroni, ou encore une médiathèque qui va être inaugurée bientôt pour la prison de Saint-Lazare. On a là un gros dossier qui pourrait être à une dimension comparatiste, puisque dans tous les pays d'Europe, en tout cas, il y a cette question qui se pose avec des usages différents, jusqu'à celui du musée, Faut-il rappeler que la France a disposé pendant un certain nombre d'années à Fontainebleau d'un musée des prisons qui a été tenu et animé par Catherine Prade, et que ce musée a fermé il y a peu de temps et qu'il a été transféré à l'école pénitentiaire d'Agen pour à destination des écoles, enfin des étudiants et enfin des ils ont des cadres de la des personnels de l'administration pénitentiaire et plus du et plus et que finalement ce musée n'a jamais été ouvert au grand public. Et donc ça renvoie à toute une réflexion autre de chercheurs qui ne sont pas des chercheurs qui travaillent sur la justice, sur qu'est-ce que c'est qu'un musée, qu'est-ce que c'est qu'exposer un certain nombre de ces objets, et donc à toute une anthropologie à l'œuvre, avec plus ou moins de réussite, qu'on a vu à Branly ou au Mucem. Dernier élément, c'est donc cette question qui est typiquement une question d'histoire. C'est la question de la mémoire des prisons. Je suis toujours frappé de voir combien on oublie, par exemple, que la loi Veil de 95, donc la loi qui, puisqu'on est dans le droit commun, la loi qui fait qu'un détenu aujourd'hui en France est soigné dans un CHU et n'est plus soigné par par une médecine pénitentiaire, cette loi-là, avec toutes les difficultés qu'elle pose, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est née de luttes, elle est née de combats qui ont été des combats très liés au développement de la pandémie de VIH dans les prisons. Bon, c'est encore une fois des choses très importantes à souligner. Pourquoi pourquoi? Parce que finalement, on a l'impression que on retombe dans cette idée que la prison n'aurait pas d'histoire. Mais la prison n'a pas cessé de changer et de s'adapter. Et c'est trop. Enfin, ce serait vraiment une facilité absolue que de penser que la prison est, comme on l'entend trop souvent, médiévale. Non, la prison est exactement fille de son temps. Et c'est ça qui, justement, la rend encore plus difficile et à travailler et à comprendre. Je rappellerai aussi des gestes forts comme ceux de du président de la République Giscard d'Estaing en 74, qui rentre en détention, qui serre la main d'un détenu et d'un gardien. Alors je ne sais plus si c'est le gardien d'abord puis le détenu. Toujours est-il que ça, c'est après les émeutes de 73 en détention, avec la reconnaissance de visages, de gens qui montent sur les toits, pas seulement parce qu'il y a Michel Foucault dans la rue, hein, c'est bien après que Michel Foucault ait cessé d'animer le groupe Information sur les prisons. Je finis. Évidemment, on m'objectera que cette mémoire, elle est stigmate et elle impose donc un silence. Et que travailler sur le silence, ben c'est bien sympathique, c'est joli à dire, mais qu'au fond, on n'a pas grand-chose pour le faire. Alors, il se trouve que, je l'ai dit, il y a cette émergence je ne sais pas si on peut parler d'une mémoire, mais en tout cas collective, mais en tout cas d'une revendication d'un droit au non-oubli, d'expériences aussi radicales que peuvent être celles de l'enfermement. Samedi dernier, j'étais à la prison Sainte-Anne d'Avignon, où la Fondation Lambert, avec un mécénat 100% privé, vient d'ouvrir une exposition. qui a suscité d'abord pour le moins une grande réticence. C'était les journées du patrimoine. Les portes sont ouvertes. Et donc, la prison a été habitée par une centaine d'œuvres venant de différents collectionneurs et des œuvres de très grande valeur, de très grande beauté. Ce qui m'a frappé lors de ce vernissage qui aurait pu être très mondain, c'est que soudain, des gens se sont mis à parler. Et ces gens qui se sont mis à parler de la prison, c'était soit des gardiens, d'anciens gardiens, des familles de gardiens qui montraient à leurs mômes où ils avaient travaillé, etc. Et aussi, et c'est là mon plus grand étonnement, d'anciens détenus. Donc avec et quelque chose qui relève, peut-être mon propos va choquer, mais finalement du droit commun. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé de récidive, on a beaucoup parlé de retour à la case prison, etc. Mais finalement, ces gens-là, ces personnes qui venaient là, montraient un graffiti qu'ils avaient tracé en 2003. Mais voilà, peut-être qu'ils étaient sortis, comme vous l'avez dit, ils étaient sortis de cette histoire-là. Et que la prison n'est pas forcément le lieu où on retourne. Et j'ai trouvé que ce simple geste de désignation de l'endroit où ils étaient, mais aussi du fait que par l'exposition de ces œuvres, tout un ensemble de gens ont vu ce qu'était une prison. Ce qui est quand même très rare, même s'il faut le souligner, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a près de 60 000 étudiants en France qui sont militants au Génépi et donc qui rentrent en détention. Enfin, je pense que c'est aussi des choses qu'il faut, à un moment donné, souligner. Enfin, c'est les chiffres, en tout cas, du Génépi. Alors, je finis. Ce qui me paraît important, c'est que la prison du Cherche-Midi, si vous regardez bien le monument, en fait, il est essentiellement dédié aux victimes des résistants et autres personnes qui sont passées là pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas d'ériger des monuments pour les prisonniers, mais à la Petite Roquette. Enfin, en tout cas, rue de la Roquette, ce qui demeure, c'est le portail, et il y a bien une plaque qui indique que là, des enfants, à un moment donné, ont été des enfants et des femmes et des hommes ont été incarcérés des mois, des années, des vies. Et il me semble que c'est aussi un vrai projet que de recherche qui nécessite de mobiliser tous nos corps de recherche pour demain. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci beaucoup. Mais personne ne pense ici que la prison n'a pas d'histoire. Et dans ce que vous dites, c'est aussi intéressant de voir comment l'histoire de la prison éclaire l'avenir. Alors, je vous donne la parole tout de suite.
Pour l'avenir. Bien. Je vous remercie. Je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette session sur la prison, ce que je considère comme un signe d'une grande confiance de la part des organisateurs, puisque je n'ai jusqu'à présent pas publié une ligne sur ma recherche concernant cette institution. Ce matin, Madame Christiane Taubira a parlé des chercheurs comme, je la cite, « d'une espèce audacieuse et téméraire ». Je vais donc m'autoriser de cette définition pour vous proposer un pas de côté en espérant que vous ne trouverez pas cet exercice personnel trop décalé. Et en guise d'excuse anticipée, je dirais que je suis un peu moins habitué des coopérations avec le ministère de la Justice que beaucoup de mes collègues qui m'ont précédé à cette table. Alors il y a deux démarches à l'égard desquelles les sciences sociales manifestent une profonde et je crois légitime méfiance. Les recommandations qui font du chercheur un expert trop proche du politique, et les prédictions qui impliquent une futurologie qui est peu compatible avec la rigueur scientifique. En prenant au sérieux ce que je trouve être une heureuse initiative de cette rencontre avec des représentants du ministère de la Justice et profitant de la chance de cette table ronde, plus particulièrement avec la directrice de l'administration pénitentiaire, je voudrais pourtant me risquer, et une fois n'est pas coutume, à associer les deux, recommander et prédire. Je le ferai en proposant ce qu'on peut appeler de petites utopies. Si on se réfère à l'enquête que lui avait consacrée en 1929 Karl Mannheim, l'utopie, c'est une orientation de l'esprit, dit-il, qui dépasse la réalité en même temps qu'elle ébranle l'ordre des choses, autrement dit, qui incite à l'action. Mais elle est aussi, ajoute-t-il, dépendante de la perspective de celui qui la qualifie, paraissant irréalisable seulement du point de vue d'un ordre social donné et déjà existant. Et on retrouve là, au fond, une idée depuis galvaudée, selon laquelle l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. C'est donc à cet exercice de prévision raisonnable, au sens où la projection dans l'avenir n'est en fait qu'une anticipation de ce qui va advenir, quoi qu'il en soit, que je voudrais vous inviter. Alors, s'agissant de l'univers pénitentiaire, il y a bien sûr de grandes utopies, comme l'idée d'un monde sans prison, où l'on imaginerait d'autres formes de sanctions que l'enfermement. Et du reste, vous le savez, l'institution carcérale est une invention récente, dont Claude Lévi-Strauss suggérait à la manière de Montaigne qu'elle pourrait apparaître à des sociétés lointaines aussi étranges que l'est pour nous leur anthropophagie. Mais ce n'est pas de ces utopies-là que je veux parler. Celles qui m'intéressent sont plus modestes, plus circonscrites, plus réalistes aussi peut-être, visant non à supprimer mais à transformer la prison, et à le faire non pour des raisons morales ou idéologiques, mais pour des motifs pragmatiques, comme on devance ce qui va s'accomplir plutôt que d'en subir la réalité. En ce sens, il s'agit de petites utopies. Alors, on pourrait en évoquer de nombreuses, et je me limiterai simplement à deux qui me semblent présenter l'intérêt de n'impliquer que des évolutions intellectuelles et non des bouleversements structurels qui seraient plus compliqués à mettre en œuvre. Ces petites utopies procèdent d'une démarche empirique. Elles sont en effet le produit d'un travail ethnographique que j'ai conduit dans une maison d'arrêt entre 2009 et 2013, ce qui me donne l'occasion de souligner combien, paradoxalement, le monde de la prison est ouvert sur l'extérieur et à la recherche en particulier. C'est un grand mérite du ministère de la Justice et de la direction de l'administration pénitentiaire en particulier, et ce, à la différence de bien d'autres, à commencer par le monde de la police. Ethnographie, je l'emploie ici simplement dans le sens d'une étude du quotidien qui s'appuie sur une présence prolongée dans l'institution. Alors, la transgression la plus fréquente des règles du monde carcéral, c'est probablement la possession d'un téléphone portable. C'est aussi l'une des causes les plus banales de passage en commission de discipline. Il est généralement admis par les surveillants et par les détenus eux-mêmes que tout le monde en prison possède un portable. L'affirmation est peut-être excessive, en tout cas, bien sûr, difficile à établir, mais l'un des directeurs adjoints de la maison d'arrêt dans laquelle j'ai conduit mon enquête m'indiquait que chaque année, les fouilles de cellules permettaient de remplir 5 à 6 sacs poubelles de ces appareils. Les tarifs pratiqués varient entre 100 euros pour un téléphone ordinaire et 700 euros pour un smartphone récent. Les appareils entrent principalement par les visites de parloirs et les jets de colis, plus exceptionnellement par l'intermédiaire de personnel pénitentiaire. Détenir des objets interdits ou bien en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, selon la formule, est considéré comme une faute disciplinaire de deuxième degré, qui est passible au maximum de 14 jours de quartier disciplinaire et en pratique, dans ce que j'ai vu, plus souvent de 8 jours, avec ou sans sursis. S'ajoute du reste à cela, fréquemment, un déclassement de l'activité professionnelle, même si le lien entre celle-ci et la possession du téléphone n'est pas évident à établir, parfois la privation des activités culturelles ou sportives. Pour les condamnés, une diminution plus ou moins substantielle des crédits de réduction de peine et la remise en cause du projet d'aménagement de peine. Et pour les prévenus, un risque de plus grande sévérité du jugement de la Cour. Ce système donc de quadruple ou quintuple peine, et évidemment il n'est pas spécifique à cette faute disciplinaire, fait donc peser une menace considérable pour les fautifs. C'est du reste la raison pour laquelle c'est souvent aux détenus les plus faibles, et notamment aux nouveaux arrivants, qu'on impose de faire passer les téléphones par les parloirs, d'aller chercher les colis atterris au-delà des cours de promenade, et de conserver dans leurs cellules les appareils compromettants. C'est une forme, là, de sociabilité qui mêle coercition et protection, et que résume ainsi un détenu: fais-toi attraper à notre place, mais on te mettra bien. Le personnel pénitentiaire a pleine conscience de ces enjeux et lors des commissions de discipline tente d'évaluer ce qui relève de l'infraction et ce qui tient à la vulnérabilité, mais obtient en fait rarement des éléments probants pour l'un ou pour l'autre et condamne de toute façon dans tous les cas, parfois sans conviction, mais au moins pour l'exemple. Alors bien sûr, l'administration pénitentiaire a de bonnes raisons pour interdire l'usage du portable. Premièrement, c'est un instrument de communication avec l'extérieur qui peut servir à exercer des pressions sur des victimes, des témoins ou des proches, à obtenir des informations sur l'instruction d'un dossier ou à poursuivre l'organisation d'activités illégales à l'extérieur. Deuxièmement, il existe désormais des cabines téléphoniques que les condamnés, mais en principe pas les prévenus, peuvent utiliser, notamment lors des promenades, avec l'avantage pour l'institution que ces communications sont contrôlées et même écoutées de façon aléatoire ou orientée. Mais les détenus ont, de leur côté, d'autres raisons pour justifier la nécessité d'un portable. Les cabines sont d'accès très limité dans le temps, à des horaires qui ne permettent pas de joindre une compagne qui travaille ou un enfant qui va à l'école. Des fois, je donnerais tout pour un coup de fil à ma femme, à qui je n'ai pas parlé depuis un an, me disait un prévenu, accusé d'extorsion de fonds dont l'épouse a été suspectée de complicité et qui, par peur des conséquences sur le résultat de son procès, affirmait avoir résisté à la tentation du portable. À ces rares exceptions près, le téléphone est devenu un objet d'une telle banalité en prison que son usage fait partie du mode de vie des détenus, quel que soit le risque lié à sa possession. Comment voulez-vous que je passe toutes ces années sans parler à ma fille le soir avant qu'elle se couche, me demandait un condamné à 8 ans de prison pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, dont l'enfant était né quelques mois après son incarcération. Bénéficiant de la confiance du personnel, ce détenu occupait les fonctions prisées d'oxy et un auxiliaire, et un portable avait été trouvé lors d'une fouille systématique de toutes les cellules de cette catégorie de détenus. Le directeur adjoint chargé de présider la commission de discipline voit lui-même être particulièrement ennuyé de devoir sanctionner, en le déclassant, un relais aussi précieux auprès de la population pénale. Le problème, donc, ne se pose pas de savoir si les portables sont une bonne ou une mauvaise chose en prison. Ils sont omniprésents, chacun le sait. La question est donc d'évaluer les effets que leur interdiction produit, puisqu'elle n'est guère dissuasive. Ces effets concernent principalement, je crois, le double contrôle qu'exercent les détenus sur les plus vulnérables d'entre eux, d'une part, et les surveillants sur les détenus en choisissant les cibles et les moments des fouilles, puisque tout le monde est censé en avoir, d'autre part. Alors ce sont des effets que l'on peut souhaiter. Ils consolident un ordre social au sein des établissements fondés sur la loi du plus fort dans la détention et sur le pouvoir discrétionnaire de l'institution. Mais ils ont aussi, on peut le penser, un coût élevé au regard du droit et de la dignité en prison, mais peut-être aussi au regard de la qualité des relations et du travail même au sein des établissements. Une alternative à l'interdiction serait l'autorisation contrôlée, c'est-à-dire la vente d'appareils choisis selon des normes satisfaisant aux critères de sécurité du monde carcéral. On cantine aujourd'hui dans les maisons d'arrêt des plaques chauffantes, des consoles de jeux vidéo, et même sous certaines conditions des ordinateurs, tous objets qu'il était inimaginable de pouvoir se procurer lorsque j'ai commencé mon enquête il y a seulement 5 ans. Le pragmatisme voudrait que l'on puisse aussi donc cantiner des téléphones, ce qui réduirait, sans les empêcher bien sûr, les trafics, les pressions, les injustices et les tensions. Il y a une quarantaine d'années, lorsque les premières télévisions sont entrées en prison, je m'en souviens très bien, leur présence a suscité de l'émoi au sein des personnels, comme parmi les commentateurs et les citoyens, et il en serait peut-être de même aujourd'hui avec des téléphones si on les autorisait. C'est pourtant une évolution dont la plupart de mes interlocuteurs au sein de l'administration pénitentiaire, localement, convenaient qu'elle était inéluctable, les uns pour la déplorer, les autres pour en anticiper les effets positifs en termes de pacification des établissements et de facilitation de leur activité. C'est donc là une utopie bien modeste, vous en conviendrez, que cette première proposition. La seconde l'est sûrement un peu moins. Le châtiment le plus redouté, et bien sûr voulu le plus redoutable, dans le monde carcéral, c'est le quartier disciplinaire. Cette prison dans la prison, comme le désigne un rapport du Sénat, réalise un isolement total et forcé qui a été introduit au début du XIXe siècle dans les prisons états-uniennes, notamment dans celle modèle de Philadelphie, par les Quakers, pour favoriser, pensait-il, la réflexion et l'amendement, mais dont il est rapidement apparu, en fait, qu'il entraînait des troubles mentaux avec une telle fréquence et gravité qu'il y a été abandonné, au moins pour un temps. Et je dis au moins pour un temps, puisque, comme vous le savez certainement, parmi les, malgré de nombreuses condamnations, y compris des Nations Unies, pour traitement inhumain et torture, on considère qu'aujourd'hui, plus de 20 000 détenus se trouvent en solitary confinement, et pour certains depuis plusieurs décennies. Alors, un point noir bien connu des prisons françaises, c'est le taux de suicide, qui a quintuplé au cours de la seconde moitié du XXe siècle et qui est aujourd'hui de loin le plus élevé d'Europe de l'Ouest, avec un chiffre d'environ 20 pour 10 000 détenus, quand il est à peu près de 10 en Scandinavie, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et même inférieur dans certains autres pays européens. La France fait à cet égard régulièrement l'objet de rapports critiques des organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme. Et du reste, l'administration pénitentiaire elle-même a mis en place divers dispositifs qui visent à prévenir le suicide sur la base notamment d'un dépistage et d'une surveillance des sujets considérés comme à risque. Alors, parmi les facteurs d'exposition au suicide qui ont été identifiés, il en est un qui est peu connu et qui pourtant l'emporte de très loin sur tous les autres. Une étude de l'INED et de la direction de l'administration pénitentiaire a en effet établi que le plus déterminant est le séjour en cellule disciplinaire, pour lequel le taux de suicide est 11 fois plus élevé que lorsque les détenus se trouvent en cellule ordinaire. Ces suicides ne surviennent pas nécessairement chez des personnes que les psychiatres qualifieraient de suicidaires, mais chez des détenus psychologiquement fragiles ou fragilisés par la détention, que l'enfermement en quartier disciplinaire, qui est souvent précédé d'une neutralisation physique rude, d'un déploiement impressionnant de personnel et d'une humiliante mise à nu pour fouille, fait basculer donc dans une situation de détresse aiguë. Et je dois dire à cet égard que dans une longue expérience de médecin et anthropologue, dans des lieux lointains et souvent difficiles, je n'ai jamais assisté à des expressions de souffrance aussi intenses que chez plusieurs des jeunes hommes que j'ai vus se jeter contre les barreaux de leurs cellules et se frapper la tête contre les murs. Peu après la fin de mon enquête, l'un d'eux, incarcéré pour un délit mineur, présentant des troubles psychologiques et placé au quartier disciplinaire à la suite d'une banale altercation avec un co-détenu, a mis le feu à son matelas dans un geste de désespoir. Appelé à son secours, le surveillant présent sur place ne disposait pas de la seconde clé de la cellule qui aurait permis à cet homme hurlant de douleur de sortir pour échapper aux flammes. Et lorsque le gradé qui en avait la possession est arrivé, le détenu était inconscient, brûlé au deuxième et troisième degré à 80%. On m'a dit qu'il avait survécu quelque temps en service de réanimation. Il était devenu suicidaire en entrant au quartier disciplinaire. Alors, les chaînes, le piton, la cangue, le cachot glacé, la marche au pas cadencée, le régime au pain sec et à l'eau, que connaissent bien les historiens, ont au fil des décennies disparu des châtiments en prison. La durée maximale du quartier disciplinaire elle-même, qui était naguère fixée à 90 jours, a été réduite à 45 en 1969, puis à 30 en 2010. Un directeur de maison d'arrêt peu suspect de laxisme me disait « il n'y a pas de raison que ça ne continue pas ». Il envisageait lui-même le remplacement du quartier disciplinaire par des mesures simples de confinement en cellule ordinaire. Et d'ailleurs, je crois que la créativité punitive n'est jamais en reste dans le monde pénitentiaire, du déclassement du poste de travail au transfèrement dans un autre établissement, du retrait des réductions de peine au report indéfini des aménagements de peine. Et je crois qu'il est donc probable qu'à terme, au gré des conventions internationales sur la torture et des condamnations de notre pays pour cette pratique et pour les suicides qu'elle génère, le coût symbolique du quartier disciplinaire sera jugé trop élevé pour des bénéfices dont on se demandera ce qu'ils sont. Les surveillants s'en plaindront peut-être, mais bien moins que de la surpopulation carcérale et des manques de personnel. Assurément, l'administration pénitentiaire de demain jugera le quartier disciplinaire comme une pratique d'un autre temps, à la manière dont celle d'aujourd'hui considère la mise au fer et la camisole de force. Et l'on s'étonnera même qu'un dispositif si indigne et si inefficace ait perduré si longtemps. Alors pour conclure, les sciences sociales brillent plus par leur capacité à rendre compte que par leur imagination, et capacité à rendre compte est évidemment très important. Il me semble pourtant que sur la base de ce qu'elles peuvent dire du présent par l'ethnographie, épuisée dans le passé grâce à l'histoire, il est possible de proposer des anticipations raisonnables ayant vocation à transformer l'ordre des choses, qu'on pourrait donc appeler des utopies réalistes, que du reste sociologues et anthropologues partagent avec d'autres acteurs, réseaux d'anciens détenus, organisations de défense des droits et observatoires des prisons, instances nationales de contrôle et de médiation des lieux d'enfermement. Et bien sûr, les deux exemples que je vous ai donnés ici ne sont qu'une illustration d'une démarche plus générale d'utilisation d'une recherche empirique pour un projet de transformation de l'institution. C'est assurément une démarche peu conventionnelle, mais la rencontre d'aujourd'hui entre des administrateurs, des professionnels et des chercheurs ne l'est peut-être pas non plus, et n'est-elle pas justement l'occasion d'imaginer des formes nouvelles de coopération ? Merci.
Merci beaucoup. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, je donne la parole à Isabelle pour réagir à la fois sur cette question de la mémoire de la prison. D'ailleurs, je constate, on parle de la prison, on a du mal à parler de l'avant, oui, et l'après-prison. Hein, c'est ce qui pose la question, effectivement. La prison, je dirais peut-être quitte à choquer un peu, c'est que la prison fascine les chercheurs comme elle fascine les journalistes. Et c'est vrai qu'on a énormément de mal à intéresser les chercheurs comme les journalistes, d'ailleurs, à un parcours. Et chaque fois qu'on leur redit que 80% des gens qui entrent en prison vont y rester moins d'un an, que 67% vont y rester moins de 6 mois, eh bien, néanmoins, ça ne change pas le regard sur la prison. Ce qui n'enlève rien à ce que vous avez dit, mais je pense qu'il faut le resituer dans un contexte plus large, ce qui explique nos difficultés parfois à avoir les connaissances dont on a besoin sur la prison. Donc, question sur la mémoire. Et deuxième question, peut-être en reprenant les exemples qui ont été donnés, on ne va pas ouvrir un débat sur le téléphone en prison. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question sur une problématique comme celle-là, ou sur une problématique comme l'évolution disciplinaire. De quoi a besoin d'une administration comme connaissance, comme recherche, effectivement, la question des effets, parce que la question des effets de l'interdiction versus les effets d'une réduction des risques, c'est une question qui se pose dans beaucoup d'autres domaines. Je trouve que c'est intéressant de se poser cette question. Puis pour reprendre un point d'histoire, vous parliez de la poignée de main du président Giscard d'Estaing en 1974. Il avait dit la prison, c'est la privation de la liberté. Et rien d'autre. Et cette question de savoir quels sont, parce que le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision en disant, par exemple, que les détenus avaient tous les droits fondamentaux, sauf ceux qui sont inhérents aux contraintes de la détention. La question de savoir quels sont les droits fondamentaux dont ils peuvent bénéficier parce qu'ils sont en détention, c'est une question qui est aussi, c'est une question politique, mais c'est aussi une question juridique et c'est aussi un objet de recherche. Voilà, c'est des questions sur des questions comme cela. Finalement, il est existe aujourd'hui, à ma connaissance, très peu de véritables travaux de recherche.
Ouf. Bon, alors, tout ça est très très dense et la charge un peu lourde aussi, je trouve. Alors d'abord, je ne suis pas la directrice des prisons, je suis la directrice de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, c'est loin s'en faut, pas seulement des prisons. Près de 69 000 personnes, certes, aujourd'hui dans les prisons françaises, mais plus de 175 000 suivies en milieu ouvert. Des enjeux considérables avec une réforme qui va venir au Parlement le mois prochain. C'est un peu dommage, effectivement, qu'on ne s'intéresse qu'à la prison, car la réponse qu'apporte l'administration pénitentiaire à la délinquance, cette réponse ne se situe pas que dans le cadre de la prison, et loin s'en faut. Encore une fois, elle se situe aussi beaucoup en milieu ouvert, dans le cadre des peines de milieu ouvert, et aussi dans le cadre des aménagements de peines. Donc il y a un terrain de recherche, là je dirais pas un terrain de jeu, parce que c'est peut-être peut-être un peu moins ludique, mais enfin, il y a quand même un terrain de recherche extrêmement large au sein de l'administration pénitentiaire, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Et il faut effectivement sortir de cet objet peut-être fascinant que peut être la prison, pour certains, que ce soit un objet de recherche, que ce soit un objet polémique, que ce soit un objet politique, c'est une évidence. En tout cas, je remercie Didier Fassin de dire que les chercheurs sont bienvenus dans les établissements pénitentiaires, parce que c'est vrai. Je rappelle également que les établissements pénitentiaires accueillent plus de 1250 reportages par an. Donc la prison a une histoire, elle est ouverte sur le monde, elle est accueillante pour ceux qui s'y intéressent. Et elle peut devenir un objet de travail objectif, intelligent, prospectif. C'est tout ce qu'on demande. Je voudrais parfois que nous dépolitisions la prison pour en faire un objet de recherche plus... plus objectif, moins dans le procès d'intention, plus comparatiste aussi avec ce qui se passe à l'étranger. La question des téléphones portables, c'est un sujet européen, c'est pas qu'un sujet français. Il y a des expériences qui sont menées en Europe. Il y aura sans doute des expériences qui seront menées dans les mois qui viennent en France sur cette question de l'accès au téléphone. Ça n'est pas que le problème du téléphone portable, c'est bien d'autres choses. Les enjeux demain de la prison, c'est Internet, c'est bien d'autres choses que simplement l'accès au téléphone portable. La question de la discipline dans les établissements pénitentiaires, pour moi, renvoie aux violences. Les violences sont aujourd'hui dans des proportions très importantes. Il faut savoir que presque 65% des détenus sont en prison pour des problèmes de violence. Il y a des comportements de violence graves dans les établissements pénitentiaires. Entre 5 et 10 personnels de surveillance sont blessés chaque jour. Pour moi, c'est pas seulement un sujet de compassion. Je ne cherche pas à faire pleurer qui que ce soit ici, mais c'est pas un problème uniquement de discipline, là, la question de la violence ou de ce que les établissements pénitentiaires et les prisons d'aujourd'hui seraient des cachots sombres, noirs, effroyables, dans lesquels nous martyriserions en permanence les détenus. Je vous le dis clairement, j'en ai un peu assez d'entendre ça, parce que la prison est républicaine, la prison, elle est encadrée par une loi, les personnels pénitentiaires sont soucieux du respect de la loi, et ils revendiquent d'être reconnus pour cela, qu'il y ait des difficultés, que les publics que nous recevons soient des publics qui sont en difficulté, c'est une réalité, qu'ils aient des comportements violents, c'est encore plus une réalité. Nous avons besoin de travailler sur ces questions-là, de faire en sorte que cet univers contenant qu'est la prison soit en même temps un univers qui soit une opportunité pour un certain nombre de gens pour évoluer, pour se transformer, pour se saisir de cette possibilité de se poser par rapport à des parcours de délinquance extrêmement chaotiques, dans lesquels ils se sont épuisés. On a parlé d'usure tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose de très réel. La délinquance, ça use les gens. Et à un moment donné, pour un certain nombre d'entre eux, passer par la case prison, par cette pause-là, peut être une opportunité, à condition, effectivement, que l'outil soit adapté, que nos pratiques professionnelles soient à la fois bien encadrées par la loi, convenables, acceptables, mais aussi qu'elles soient bien orientées vers ce que nous recherchons. Moi, je trouve, à titre personnel, qu'on déqualifie beaucoup l'administration pénitentiaire sur le fait qu'elle peut apporter quelque chose aux publics qui lui sont confiés. Elle n'est vécue que comme un lieu d'enfermement, de brimade, de privation de droits. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on cherche à créer des opportunités pour des individus, pour qu'ils sortent des parcours de délinquance dans lesquels ils sont. Je rappelle aussi que la quasi-totalité des gens qui rentrent en prison sont quand même des gens qui ont un parcours judiciaire. Pratiquement personne ne rentre en prison sans jamais être passé un jour ou l'autre entre les mains d'un juge. Il y a des passages à l'acte très graves qui amènent des gens en prison pour la première fois de leur vie, et vraisemblablement d'ailleurs pour la dernière, mais la grande majorité de cette petite, moyenne délinquance que nous avons est quand même une délinquance de gens qui sont dans des parcours de délinquance. Donc ils n'arrivent pas en prison par l'opération du Saint-Esprit. Ils sont là pour quelque chose. Alors, nous, dans cette institution, nous sommes intéressés effectivement par ce que peut nous apporter la recherche en termes de connaissances des publics. Bien entendu, on a des recherches qui sont faites, souvent statistiques, sur ce que sont nos publics, mais c'est souvent du one shot, c'est statique. On a peu de connaissances sur l'évolution de nos publics, sur l'évolution des caractéristiques de nos publics dans le temps. Qu'étaient nos détenus il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'en sont-ils aujourd'hui? Comment nos publics évoluent-ils? Moi, mes services travaillent avec... On travaille énormément sur la question des violences, hein, les violences entre détenus et les violences contre le personnel. Nous rencontrons la SNCF, Pôle emploi, les services hospitaliers. Tous les services publics sont confrontés à ces problèmes-là. Et tout le monde en fait une priorité d'action. Hein. Donc nous ne sommes pas seuls, parce que c'est un lieu d'enfermement, confrontés aux problèmes de violence, d'incivilité, de crachats, d'insultes dont font l'objet nos personnels tous les jours. Donc nous avons besoin de parfaire notre connaissance du public, de comprendre comment nos publics évoluent et comment notre réponse et nos méthodes d'intervention sont adaptées, ou pas d'ailleurs, à la manière dont nous devons intervenir. Les publics, les métiers, les personnels pénitentiaires ont considérablement évolué depuis les études de Chauvenet, Benguigui. C'est aujourd'hui des personnels qui sont peut-être moins revendicatifs sur le plan social. Je ne dis pas que le dialogue social est toujours facile à l'administration pénitentiaire, mais malgré tout, j'ai connu cette institution vivre des crises sociales beaucoup plus graves et beaucoup plus violentes que ce que nous rencontrons aujourd'hui. Nous avons des personnels aujourd'hui qui sont plus diplômés, qu'ils sont plus engagés ou plus investis dans le métier qu'ils font, mais qui sont aussi plus revendicatifs sur le fond. Ils veulent que leur métier soit reconnu. Ils veulent que leur métier se transforme. Ils ne veulent plus faire ce boulot de travail posté sur la coursive à ouvrir et à fermer des portes. Ils veulent être reconnus pour leur capacité à avoir une analyse, un suivi des publics, à avoir une position qui puisse être entendue par le juge au moment où il faut décider d'un aménagement de peine. Question des métiers majeurs. Nous avons besoin de mieux connaître aussi les personnels qui rentrent au sein de l'administration pénitentiaire. On est quand même une des administrations qui recrute de façon considérable, hein, avec des promotions très importantes de surveillants. Nous avons besoin de mieux connaître aussi le personnel qui vient, ses attentes, et d'adapter aussi les métiers à ce que ils sont. Et c'est ce sur quoi nous avons beaucoup axé nos appels d'offres, hein, en direction de des chercheurs. Nous avons un souci d'opérationnalité. Bon, vous l'avez compris, l'administration pénitentiaire, ça a été longtemps un sujet ou un objet de recherche fondamentale, si je puis dire, sur la place de cette institution spécifique dans notre ordre républicain et d'ailleurs dans l'histoire finalement de l'institution punitive et de la manière dont notre société a répondu à la fois à la délinquance, aux marginaux, etc. Bon, mais cette recherche fondamentale, elle est importante pour le ministère de la Justice de façon générale, pour savoir finalement comment la réponse pénale évolue dans le temps et comment les juges, au fond, s'emparent de cette question de l'emprisonnement dans le traitement de la délinquance qu'ils font. Pour nous, ce qui est important, c'est que les travaux de recherche, au-delà de cette recherche, je dirais, fondamentale, il est important que les travaux de recherche aient une opérationnalité qui nous permette d'adapter, de réajuster nos pratiques. On est accessible à la critique, je pense. Heureusement, d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on est critiqué? Donc nous avons lancé, depuis maintenant pas mal d'années, des travaux de recherche dans ce qu'on appelle des recherches-actions. Hein. Donc, notre objectif étant d'accompagner, au fond, par des chercheurs, modifications de pratiques professionnelles, de l'ouverture de nouvelles structures. On a travaillé avec des équipes de recherche au moment où on a créé les UVF. au moment où on a travaillé sur les établissements pour mineurs, on a créé les établissements pour mineurs et où on les a ouverts. Nous avons une équipe de recherche aujourd'hui qui est associée à l'ouverture d'un nouveau type d'établissement, le centre pour peine aménagée qui est à Longnes. On a une équipe de recherche qui va accompagner cette ouverture et s'intéresser finalement à ce processus de réforme de pratiques, de modification des pratiques qui se fait en même temps que la recherche se fait elle-même. Et ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est l'occasion d'un échange. Il ne s'agit pas de faire faire à une équipe de chercheurs un boulot de consultant que ferait un cabinet conseil. Ça, on sait recruter des cabinets conseils pour nous aider à piloter des réformes. Il s'agit de nourrir finalement la réflexion d'une institution, d'un groupe de travail au fond, sur le local, sur ce qu'il est en train de faire, ce qui se passe au moment où il le fait. De la même manière, j'ai parlé des violences, travailler avec des chercheurs sur la question des violences en milieu carcéral, absolument majeur pour nous si on veut arriver à positionner notre personnel de façon beaucoup plus efficace, à être capable de prévenir ces phénomènes de violence parce qu'ils nous dépassent à bien des égards. Donc voilà des exemples que je pouvais donner. Troisième chose, c'est... l'exploitation et finalement de l'ensemble de ces travaux de recherche, l'administration pénitentiaire via un événement annuel valorise les travaux de recherche qu'elle a commandés. Ce sont les journées internationales qui sont animées par Annie Kensey notamment qui est présente ici. C'est extrêmement important pour nous, d'abord parce que c'est un retour positif que nous faisons vers les chercheurs, que de leur permettre justement de faire connaître leurs travaux de recherche et d'échanger avec des professionnels sur les résultats de leurs travaux de recherche. Moi, je trouve que c'est intéressant pour les chercheurs, c'est vivant, et puis c'est intéressant pour nous. Et puis, nous avons depuis presque 15 ans, à la direction de l'administration pénitentiaire, des forums qui permettent de faire venir des chercheurs sur des sujets très divers, de sorte que la direction elle-même de l'administration pénitentiaire se nourrisse de travaux qui la concernent parfois de près ou de loin, de travaux d'histoire, mais aussi de travaux de recherche plus opérationnels. Et j'ai le souci de poursuivre cette communication des travaux de recherche en direction de l'encadrement supérieur de l'administration pénitentiaire, car nous avons besoin, pour conduire, accompagner des réformes, de nous nourrir en permanence de l'ensemble des travaux de recherche qui sont conduits. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et vraiment, encore une fois, je crois qu'il y a bien des sujets à traiter dans nos milieux. Je voulais terminer juste sur une chose pour abonder dans ce qu'a dit Nicole tout à l'heure. Il est très frappant que l'administration pénitentiaire, à différence par exemple de la PJJ, soit un objet ou un sujet de recherche, mais que le judiciaire en soit totalement absent. Alors ça, c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment très symptomatique de la vision, peut-être, et peut-être ce que nous-mêmes, nous avons à pêcher, enfin, nous pêchons là-dessus. Je veux bien le reconnaître, peut-être ce tropisme de l'administration pénitentiaire à vouloir toujours se déconnecter de la justice. Est-ce vrai? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, il est très symptomatique de voir qu'il n'y a pratiquement, à ma connaissance, aucun travail de recherche qui est fait sur l'implication des peines, le juge de l'application des peines, l'intervention au milieu fermé du juge de l'application. Il y a des travaux de recherche qui concernent les relations SPIP, juge de l'application des peines en milieu ouvert. En milieu fermé, je n'en connais pas.
Merci. Si je puis me permettre, quand même. Je m'excuse, mais c'est un échange et c'est pas possible d'entendre que l'histoire de la justice, par exemple, n'est pas travaillée. En l'occurrence, on peut dire que tout historien passe par les archives judiciaires, d'abord parce que vous n'avez pas répondu sur la mémoire, et je trouve qu'un certain nombre de points que vous soulignez justement feraient que la prison ne serait plus cet objet-là. Et que, si vous le savez mieux que moi, la prison est toujours dans tous ces centres-villes, liée au palais de justice, et que c'est bien le système, construction architecturale de la prison et du palais de justice qui incarne bien cette chaîne judiciaire.
Juste une remarque aussi. Dans une séance dont le titre est la prison, ne nous étonnons peut-être pas que les deux interventions des chercheurs portent sur la prison.
Mais je crois que l'observation, je crois qu'il faut terminer là-dessus parce qu'on n'a plus de temps, mais je crois que les interventions montrent simplement, et il ne s'agit pas des deux chercheurs qui sont à la tribune, parce que c'est un constat beaucoup plus général, c'est que on a du mal à avoir des recherches, à avoir un milieu de recherche, en tous les cas suffisamment de chercheurs qui travaillent sur l'ensemble du parcours, c'est-à-dire le parcours de délinquance, et c'est vrai que les pistes qui ont été ouvertes par Marwan Mohamed, la désistance, etc., c'était extrêmement important, et qui travaillent sur l'entrée, la sortie de prison, les sanctions en milieu ouvert, etc. C'est un constat général, ça ne retire rien à ce qui ont été fait par les uns et les autres, mais je crois qu'il faut faire ce constat. Et Isabelle et vous-même, vous avez ouvert un certain nombre de pistes sur la mémoire, tout le monde est d'accord, sur le fait d'accompagner l'administration pénitentiaire, il y a des pistes. C'est vrai que, il y a un certain nombre de questions qui aujourd'hui ne sont absolument pas traitées. Ça pose la question, mais ce sera pour une nouvelle journée, est-ce qu'on a un milieu de recherche suffisant sur ces questions? Et si on ne l'a pas suffisant, comment on le construit, avec quels jeunes chercheurs, etc. Alors ça, c'est plutôt, ça s'adresse à l'EHESS et à l'ensemble des chercheurs, mais je crois que c'est un constat général qu'on a fait très largement à la conférence de consensus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs très intéressants, mais qui sont plutôt individuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un milieu de recherche suffisant sur ces questions. Voilà. Après, ça ne retire rien aux travaux qui ont été faits. Simplement, là, l'administration a exprimé ses besoins. Et voilà. Bien, en tous les cas, merci à tous.